Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que trouvez-vous le plus révoltant dans la condition humaine ? Que trouvez-vous le plus révoltant dans la condition humaine ? Je pense que si l'on posait cette question par sondage à nos contemporains, et par-delà même le temps à toute l'humanité, s'il était possible de la réunir et de lui faire répondre à un sondage de cet acabit, l'une des réponses les plus fréquentes, sans aucun doute, serait « ce qui nous révolte le plus, c'est la mort ». Et l'on peut comprendre cela, ce fait de la mort qui est absolument universel, hein, qu'il advienne à la fin d'une maladie très longue et douloureuse, qu'il advienne au contraire très subitement chez un vieillard très avancé en âge ou au contraire dès le sein maternel, la mort est toujours quelque chose qui révolte l'être humain, qui est ressenti comme une déchirure profonde et intolérable. Il n'est pas, je crois, jusqu'au plus radical des athées matérialistes qui, alors que ses propres convictions devraient le pousser à accepter tout bonnement la mort, si nous sommes le fruit du hasard ou de la nécessité, eh bien, après tout, la mort devrait être un fait qu'on enregistre froidement. Et même cet athée-là, très radical, il faut bien qu'il le confesse, est frappé jusque dans son cœur très profondément lorsqu'un de ses proches décède ou lorsque lui-même se trouve confronté à la mort. Quant à celui qui admet l'existence de Dieu, la mort met à rude épreuve son intelligence de Dieu, sa connaissance de qui est Dieu. Si bien que, au cours de l'histoire, aussi bien chez les déistes, chez les théistes, peu importe, de tout poil, on a versé dans des conceptions erronées de Dieu, notamment à cause de ce scandale qu'est la mort. On s'est dit que soit Dieu était tout-puissant et que s'il laissait mourir quelqu'un, tout-puissant qu'il était, c'est parce que sans doute il était sadique ou pour le moins indifférent à l'égard de la créature humaine. Et un Dieu comme cela, eh bien, on a guère envie de l'adorer, de l'honorer, donc on s'en éloigne. Et soit encore, on se dit que Dieu est bon, profondément bon, qu'il aime sa créature, mais que si la mort existe, c'est que ce pauvre Dieu n'est qu'un Dieu aux petits pieds. Il est impuissant. Il ne peut rien faire, il y a un obstacle en face de lui, la mort. Et il faut être honnête, qui voudrait honorer un tel Dieu au petit pied ? Voyez donc que si l'homme et la mort ne font pas bon ménage, je crois que Dieu et la mort, spontanément, non plus, ne font bon ménage. Face à cette scandaleuse contradiction apparente entre Dieu et la mort, face à cette séparation très douloureusement ressentie, très violente, elle est toujours violente cette séparation, même si on s'y attend de longue date, entre l'âme et le corps, je crois que le chrétien est pour son propre bien, et aussi pour pouvoir répondre de sa foi et de qui est son Dieu auprès de ses contemporains, le chrétien pourra trouver évidemment dans la révélation, je ne vous apprends rien, dans l'écriture sainte, interprétée par la tradition, mise en lumière par la tradition, il pourra trouver de nombreux éléments de réponse à cette obsédante question, pourquoi la mort ? Si Dieu est là, pourquoi la mort ? On pourra dire par exemple que Dieu n'est pas du tout l'auteur de la mort, ce que nous savons, qu'il n'est que vie, qu'il n'est que celui qui tire du néant toute chose et qui veut le bien de ses créatures. On pourra expliquer que c'est le dévoiement dû à la liberté mal orientée des créatures angéliques et humaines qui ont provoqué la mort, qui sont la seule source de la mort. Je vous renvoie au livre de la Genèse, bien sûr, je vous renvoie à ces paroles de saint Paul, par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Saint Paul rend très bien compte de cet événement primordial de la désobéissance humaine, de cette liberté humaine dont on a fait mauvais usage et qui a entraîné la mort, disculpant par là Dieu de toute responsabilité dans la mort. On pourra dire aussi que si Dieu permet la mort, c'est comme une peine, bien sûr, on le voit dans le livre de la Genèse, mais c'est également comme un instrument pédagogique, parce que la mort est ce mur devant lequel se retrouve la créature orgueilleuse que nous sommes, chacun d'entre nous, et qui doit prendre acte, devant une telle rupture radicale, de sa condition finie, de sa condition de créature. Vous voyez donc qu'on pourra trouver bien des explications dans la révélation. On pourra, comme Augustin, arguer du fait que la toute-puissance de Dieu éclate davantage dans le fait qu'il soit capable de ressusciter quelqu'un, de rendre la vie après que la vie en ait été retirée. Que la toute-puissance de Dieu éclate davantage lorsque Dieu recrée toute chose, lorsqu'il sauve, que lorsqu'il crée. Mais tous ces arguments, mes frères, qui sont tout à fait fondés, qui sont vrais, tous ces arguments sont de peu de poids. Il faut quand même bien le reconnaître, devant le scandale, encore une fois, de la mort. Et dans notre fort interne, et dans l'esprit de nos contemporains, dans le cœur de nos contemporains, tous ces arguments, si l'on les entend, on n'est pas toujours prêt à les écouter vraiment, et à s'en nourrir pour accepter ce scandale de la mort et passer outre. C'est pourquoi, et du reste, c'est toutes ces vérités que je viens d'énumérer, elles étaient déjà, elles figuraient déjà dans l'ancienne alliance, dans la révélation première que Dieu fit à l'homme de tous ces mystères. La nouveauté du christianisme, la beauté du christianisme, c'est la figure de Jésus-Christ qui nous l'apporte. Dans l'évangile d'aujourd'hui, singulièrement, Jésus est la réponse au scandale de la mort et au scandale de la coexistence entre Dieu et la mort. Parce qu'enfin, dans la figure de Jésus, dans cet événement, de ce deuil horrible de cette veuve qui a perdu son fils unique, dans la conduite de Jésus éclate, plus que dans tout argumentaire que nous pourrions construire, et la bonté et la toute-puissance de Dieu. Sa bonté, parce qu'on nous dit dans le texte, et les traductions sont toujours un peu fautives, et là plus qu'ailleurs, on nous dit « Jésus fut pris de pitié », c'est déjà bien. Mais dans le grec, on trouve plus que cela, qu'on peut rendre en français par quelque chose comme « Jésus fut saisi jusque dans ses entrailles ». Au plus profond de sa personne, il frémit devant la situation douloureuse de cette femme. Jésus est ébranlé dans son humanité. Il est ébranlé par la situation dramatique de cette femme. Voyez la bonté de Jésus qui, tout de suite, s'adresse à la femme en disant « Ne pleure plus, sèche tes larmes ». Et on voit également la toute-puissance de Dieu dans le fait que Jésus s'adresse au jeune homme mort. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Vous voyez, la bonté et la toute-puissance de Dieu éclatent dans la figure de Jésus-Christ. Et Saint Luc a déployé tous ses efforts pour bien faire ressortir cette toute-puissance et cette bonté de Dieu dans la figure de Jésus-Christ, dans ses paroles et dans son comportement, par un contraste. Il a pris la situation la plus extrême qui soit, la situation la plus horrible. Une veuve qui, en plus, a perdu son fils, mais son fils unique. Y a-t-il plus contre nature, allais-je dire, y a-t-il plus révoltant que la mort d'un enfant avant le décès de celle qui l'a mise au monde? Voyez, mes frères, que nous avons là une situation radicale à laquelle Jésus répond radicalement. Pas tant par des paroles. Le Seigneur, finalement, ne développe pas un traité de théologie. Le Seigneur ne fait ni apologétique, ni théologie dogmatique pour rendre compte du pourquoi, du comment, il agit. Le Seigneur compatit et le Seigneur agit. Et je crois que c'est là la chose qui peut nous réconforter au plus profond. Il y a là quelque chose qui peut porter nos contemporains à renouer avec Dieu, voir dans la figure de Jésus-Christ cette bonté en acte, pas tant en parole, mais dans l'agir, dans la posture. Et Jésus va encore plus loin. Parce que, on le sait, nous qui connaissons la suite de l'histoire, les contemporains ne le savaient pas lors de cet épisode, mais nous le savons, le Seigneur Jésus va beaucoup plus loin. Il est ce qui lui donne d'autant plus de crédit pour prétendre que Dieu est bon et tout-puissant. Il se met à la place de cet enfant. Parce qu'enfin, si Saint Luc reporte cet événement-là, parmi les miracles innombrables de Jésus, il y a fort à croire que c'est en vertu de la correspondance profonde qui existe entre la situation de cette veuve et de son fils unique qui meurt, qui est la veuve, sinon la Vierge Marie, qui est le fils unique qui meurt, sinon Jésus-Christ. Vous voyez la ressemblance qui est éclatante avec ce qui va se passer quelques années plus tard sur le gibet de la croix. Jésus ne se contente pas seulement d'agir en consolant comme extérieurement, il vient souffrir à la place de l'être humain, ou au moins compatir, souffrir avec l'être humain, en se mettant dans la même situation que l'être humain, lui qui pourtant n'avait aucune responsabilité, exempt de tout péché, et qui n'aurait absolument pas dû mourir, dans une parfaite gratuité, dans une condescendance absolue, Jésus se met à notre place et souffre avec nous. Je crois que nous avons là la clé de l'énigme. Bien sûr, cela ne convertit personne du premier coup. Bien sûr, il faut tout un travail de la grâce. Mais cette vérité-là, mes frères, je crois que nous gagnerions à la méditer davantage et nous gagnerions à, discrètement, toujours avec pudeur, lorsque autour de nous des personnes se trouvent dans le deuil, eh bien, très franchement, à reprendre cet exemple de Jésus. Que faisait-on autrefois dans les hôpitaux, lorsqu'on était religieuse infirmière? Que faisait-on autrefois sur les terrains de bataille, les champs de bataille, lorsqu'on était aumônier militaire? Que fait-on aujourd'hui encore, il faut bien le dire, mais de manière plus cachée, on n'ose plus trop. Que faisait-on autrefois? Eh bien, on mettait un crucifix devant la personne qui était en agonie pour lui dire « Tu vois, ton Dieu est venu jusqu'à toi et il a souffert avec toi. Je ne peux rien te dire d'autre, mais regarde ça, tu puiseras là ta force. » Frères, nous allons fêter dans quelques jours l'exaltation de la Sainte Croix, la Croix glorieuse, Notre-Dame des Sept Douleurs. Eh bien, mettons-nous déjà dans cette perspective, entrons déjà dans cette méditation du mystère de la Croix comme motif de consolation de nos deuils, comme motif de consolation devant ce qui restera toujours un scandale en définitive, hormis lorsque nous serons dans la gloire, en connaissance de toutes choses, enfin. C'est le deuil et la souffrance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.